différents confinements, les organisateurs d'événements, de rencontres, de symposiums, de grands rassemblements ou encore de séminaires ont été sérieusement mis à l'épreuve. Les rencontres physiques ont été soit annulées, soit les organisateurs ont tenté dans la précipitation de les basculer en visio, en règle générale, sans réel grand succès. L'erreur principale, selon moi, ils ont calqué ce qu'ils faisaient d'habitude en physique en utilisant des outils digitaux. Et ils se sont d'ailleurs plantés, pour la plupart parce qu'ils n'ont pas pris le temps de vraiment réfléchir à l'expérience client, à l'expérience utilisateur. Bref, leur inexpérience digitale a mis à mal l'expérience des utilisateurs. Et la principale conclusion des organisateurs a souvent été de dire que le digital ne fonctionne pas pour les événements et que leurs indicateurs traditionnels de mesure n'étaient pas atteints. Le raccourci, il est habile pour masquer un manque de compétences, un manque de curiosité, un manque de courage parfois. Pour la défense des organisateurs d'événements, ce n'était pas si facile de se réinventer en un temps record, alors qu'ils n'avaient pas pris le temps ou pas eu la curiosité de tester les formats distanciels ou des formats hybrides, alors que les outils le permettant existent pour la plupart depuis plus de 10 ans. C'est peut-être un sujet de transformation pas fait ouais, dans ces périodes où tout allait bien. Non. Peut-être un sujet lié à l'oubli pur et simple de l'expérience utilisateur qu'il faut réenchanter en permanence à l'ère de la Zoom fatigue liée à des visios sans vie et sans réelle interaction. Et du côté des marques, certains pleurent sur la désaffection de leurs webinaires en mode descendant avec des intervenants qui ne font souvent que déclamer leur contenu face à des spectateurs qui sont moins nombreux à la fin qu'au début et qui, lorsqu'ils sont encore en ligne, vaquent le plus souvent à d'autres occupations. Normal, me diras-tu, puisque le spectateur n'est que trop rarement pris en compte dans ces webinaires à la papa. Alors bien sûr, de temps en temps, on passe à la fin à des questions de la salle. Et je vais te faire rire, de nombreuses marques ont déjà écrit les questions, de peur que personne n'en pose ou que les questions puissent peut-être fâcher. Dommage, à l'ère du marketing des conversations, d'être resté au marketing du siècle dernier. Dans ce marasme événementiel, de chaînes managériales qui ne jurent que par des KPI inadaptés, mais qui font peut-être plaisir à l'ego du boss, des DIRCOM et des marques accompagnées par des agences qui font vraiment le job, utilisent avec succès les nouveaux outils qui permettent de maximiser l'attention et l'engagement des participants, générant une vraie valeur ajoutée pour tous, à force des vraies conversations et des interactions constructives en temps réel. Et oui, bref, comme dirait l'autre, on a les agences qu'on mérite, on a les annonceurs que l'on mérite aussi, non? Et comme le disait Louis Jouvet, ce ne sont pas les spectateurs qui font que la pièce de théâtre n'est pas bonne, certains soient, ce sont les acteurs qui ne sont tout simplement pas bons. Pour bien comprendre comment certains réenchantent les événements en hybride ou en distanciel, comment ils s'emparent avec succès des interactions permises par les outils nouvelle génération, comment ils créent une préférence de marque en permettant de redonner ses lettres de noblesse à ce que le mot « événement » veut dire et à ce qu'il permet de créer comme valeur, l'invité de cet épisode du podcast est Laurence Guiramant, la directrice commerciale de Voilà, la plateforme dédiée aux événements interactifs née de la rencontre entre la créativité de l'agence Publicis et la maîtrise technologique d'Orange et de ses ingénieurs. Bonjour Laurence.
Bonjour PPC et merci pour cette invitation.
Merci à toi de t'être rendu disponible ce matin. On attaque dans le vif du sujet. Laurence, qu'est-ce qui bug dans les événements hybrides?
Question est aride dès le matin. Alors, qu'est-ce qui bug dans les événements hybrides? En vrai, c'est que je pense que les clients, dès le départ, ils disent « je veux un événement physique » parce qu'on a tous envie de se retrouver sur un événement physique. Et en fait, après, ils se disent « mince, il faudrait quand même une petite brique digitale parce qu'on a pris l'habitude de le faire ». Et ils veulent rajouter cette brique sans aucune valeur. Et en fait, c'est juste une diffusion plate et sans aucune considération de l'auditeur, en fait. Voilà. Tu sais de quoi je parle.
Ouais, donc si on résume, c'est fait à la bourre et puis il n'y a pas finalement de conception intégrant totalement le fait qu'on échange de vecteur et qu'il y a nécessairement une interaction à mettre en place, c'est ça?
Absolument, et c'est en fait, quand on ne considère pas l'auditeur, qu'il soit dans la salle ou à distance, ben c'est exactement la même chose. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, la complexité, c'est qu'il faut investir pour les gens dans la salle et investir pour les gens à distance, parce qu'on parle bien d'investissement. Que ce soit du temps ou de l'argent.
Alors ça, c'est pas si simple que ça quand même, parce que bon, il y a effectivement du temps, de l'argent, c'est très compliqué de faire voler un événement. Dans les meilleurs cas d'usage que vous avez vus, puisque bon, bah, on reparlera peut-être de cette joint venture entre Publicis et Orange, vous avez déjà pas mal de clients avec des choses qui ont réussi. Comment ils s'y prennent, ceux qui vraiment réussissent?
Comment ils s'y prennent? Déjà, en fait, ils ont un objectif sur un événement, et je pense que c'est la clé du succès, c'est de se dire qu'est-ce que j'attends de cet événement, qu'est-ce que j'attends en termes d'engagement des personnes en distance, à distance, puisque nous, c'est vraiment notre partie. Et en fait, c'est comment je fais pour rythmer mon événement. On sait, puisqu'on a travaillé avec des neuroscientists, parce qu'on a vu assister à des événements, que toutes les 6 à 8 minutes, il faut des interactions, des questions, des quiz. Et tous ceux qui ont rythmé leurs événements et qui n'ont pas dupliqué un événement physique en événement digital, eh bien, en fait, ils ont vraiment réussi à faire quelque chose. On a eu parfois des événements qui ont duré 2 jours et on a eu plus de 3000 questions. Alors, ils avaient un petit secret.
Ouais, c'est un petit secret, ça. Comment ils s'y sont pris? Comment tu peux nous raconter un peu cette histoire?
Alors, je ne sais pas si je peux tout raconter, mais en vrai, ce qu'ils voulaient, c'était que justement, c'était une réunion interne. Ils voulaient que les personnes posent des questions sans aucune timidité. Et pour que les gens aient envie de poser cette question, en fait, il y a toujours une petite carotte. Et les questions les plus intéressantes, les plus likées, du coup, l'initiateur de la question gagnait un voyage à New York. On peut dire, c'est une jolie carotte. Finalement, c'est pas hyper cher, mais c'est hyper engageant, c'est stimulant. On est tous des joueurs. Et du coup, il y a eu vraiment un grand nombre de questions auxquelles on s'attendait pas. Et un joli voyage à la clé.
Mais un joli voyage à la clé, c'est pas mal, c'est bien joué ça. Tiens, je prends les commentaires et les questions. Laura nous dit, c'est exactement cela, il faut faire du hybride first, pas en after soft, ça c'est pas à la fin. Et question de Jean-Emmanuel, et tu dis, comment on fait un height bride? J'aime bien le terme, tu vois. comment on fait ça, Laurence?
Effectivement, c'est exactement ce que disait Laura à l'instant, c'est déjà de se dire que, et c'est marrant parce que j'avais un client hier, qui me dit qu'il est dans une boîte américaine. Ils ont pensé aux États-Unis à faire une grosse convention et puis ils rajoutent la brique digitale. Et lui, il me dit, je fais la brique digitale et peut-être que je mettrai du présentiel derrière pour quelques personnes que j'aurais choisies. Donc, c'est vraiment, c'est le rythme, c'est l'animation. Alors, c'est une animation télé peut-être. Les formats télé marchent plutôt bien dans le digital. Mais c'est surtout le rythme, l'engagement et considérer le participant. Et c'est pas à toi que je l'apprendrai non plus, PPC, parce que je crois que c'est toi qui m'as cité cette phrase en premier, mais l'événement dont moi, participant, je suis le héros, franchement, le jour où on arrivera à cet événement-là, j'aimerais bien le partager avec vous et j'aimerais bien que tous autour de cette table, vous puissiez être les invités, parce que c'est vraiment ça qui permettra de dire qu'on a fait un bel événement. Et on l'a pas fait encore.
Ça reste à faire. On va s'en parler. Ça reste à faire. Et c'est vrai que c'est assez passionnant. Moi, j'aimerais revenir sur un point, parce que je le disais un peu en intro. La joint venture entre Publicis et Orange, les as de la créativité et les as de la technologie qui fonctionnent. Pourquoi cette joint venture et pourquoi avoir créé Voilà?
Alors déjà, c'est un tout petit peu caricatural quand tu dis qu'en fait, la créativité chez Publicis et chez Orange, on a la techno. En fait,
ouais,
les
j'ai
deux... les deux sont créatifs et techno, en vrai. Et en fait, pourquoi? Parce que moi, je viens de l'événementiel, parce que j'étais à la com chez Orange, et que, comme tout le monde, on a eu ce stop, et notre agence Publicis a eu les mêmes sujets. On a testé plein de choses. On a testé des outils de réunion pour faire de l'événement. Et en fait, une réunion, c'est pas un événement. Et on a trouvé aucune plateforme qui donnait vraiment une prépondérance à l'image, à la qualité, à l'engagement. Et du coup, on s'est dit, allez, hop, go, on y va. Et comme aussi bien chez Orange que chez Publicis, on a cette culture intrapreneuriale, on nous a laissé faire. Et puis, aujourd'hui, j'ai quitté Orange. Ils ont quitté Publicis. On a recruté. On est une trentaine chez Voilà, dont une vingtaine de développeurs, pardon. Et puis ça fonctionne. Alors il y a plein d'améliorations à faire, et c'est en écoutant nos clients, les participants, qu'on va améliorer cette plateforme.
Passionnant. Je prends quelques commentaires comme ça. C'est Philippe Elie qui nous dit il faut aussi mettre des dessins en direct. Ça, c'est vrai que le sketchnoting peut avoir aussi une vraie plus-value. Vanessa qui nous dit le participant online se sent souvent puni quand il lit. Cet événement n'est accessible qu'en présentiel. C'est pas faux. Oui.
Et le participant digital remet aussi Vanessa, se sent parfois aussi peut-être comme une pièce rapportée. On a tendance un peu à l'oublier dans ce que tu disais, dans le propos. Il faut l'intégrer, il faut mettre customer first. Hein, le participant voilà, n'est pas un simple spectateur, c'est un vrai participant. Question de Laura, tiens, aussi, au-delà de l'intérêt et de l'engagement, est-ce que vous avez aussi craqué le networking, qui est souvent le grand absent de ces événements virtuels? Vous avez intégré ces choses-là?
On ne l'a pas craqué, Laura, et c'est un vrai sujet. J'ai d'ailleurs une réunion avec un grand acteur du networking physique qui a développé du coup quelque chose en digital que je rencontre la semaine prochaine. Pour l'instant, on ne l'a pas développé, cette brique-là, parce qu'on n'a rien trouvé de bien et qu'on n'a pas non plus craqué, savoir comment il fallait faire, et que tout ce qu'on a vu, ça faisait plouf. Et du coup, on n'a pas voulu copier, plagier, et on n'a pas encore trouvé. Franchement, Laura, si tu peux nous aider, si tu as des idées là-dessus, je suis preneuse. Hein.
Voilà, et vous voyez, c'est interactif. Hein.
Ah, grave.
C'est conversationnel, c'est parfait, ça. Eric tiens, nous dit, le format plateau télé était déjà créatif il y a, entre guillemets, il y a 10 ans. Il pense qu'on attend un peu plus aujourd'hui en termes d'effet waouh. De ce que vous avez pu mettre en place, et tu me le disais en préparant cette émission, je ne sais pas si tu peux parler de ce cas d'usage, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place qui justement crée un effet waouh et qui change tout et qui vraiment réenchante un événement en hybride?
Je suis d'accord, le format télé, ça marchait bien il y a 10 ans, mais en fait, il y a 10 ans, on n'avait pas en plus ces outils d'interactivité. Là, sur la plateforme, voilà, on vient de développer depuis la semaine dernière, par exemple, si vous faites un lancement de produit, bah, ceux qui sont dans la salle, on imagine que eux, ils vont voir le produit en vrai, et ceux à distance, bah, c'est ce que disait, je ne sais plus quel auditeur il y a quelques secondes, mais bah, on se sent un peu oublié. Bah, nous, on a intégré une partie 3D, et ah oui, c'était Vanessa, et en fait, c'est moins à distance qui vais pouvoir regarder cet objet 3D modélisé, et avec ma souris je vais pouvoir le faire tourner, le faire grossir, le regarder de plus près, et là du coup je me dis tiens, on a pensé à moi aussi à distance. Donc en fait c'est donner des expériences différentes aux personnes qui sont soit en physique soit à distance, et on peut aussi réussir un événement qui ne soit que à distance, et je pense qu'on va faire de plus en plus ça, parce que je sais pas s'il y a des responsables événementiels dans les auditeurs
j'en vois quelques-uns.
Mais ils ont des vrais problèmes de jauge. Aujourd'hui, ouais. les gens disent « je viens à un événement, je ne viens plus, je viens en physique, mais comme j'ai la possibilité de venir à distance, bah, je me laisse la possibilité de switcher d'un mode à l'autre, et ça coûte super cher, parce que je dois à la fois prévoir des petits fours et à la fois considérer la personne à distance. Donc c'est très 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 dur, et je pense que mai-juin tout le monde a voulu se retrouver en vrai, et franchement c'est super chouette, mais je pense que, et je le vois dans les sollicitations qu'on a pour la rentrée, on est très à distance, mais sur des beaux formats, et on investit sur des beaux formats en considérant justement le participant à distance.
Pas mal de questions arrivent, je vais les prendre, elles concernent pas mal le Web3, les métaverses. Vanessa nous dit le Web3 et le métaverse améliorons peut-être l'expérience en matière d'événementiel. Eric vous demande, est-ce que le métaverse fait partie de votre roadmap? Et puis Peggy nous dit, les NFT, le futur, c'est peut-être le futur pour avoir le sentiment d'être encore un peu plus dans la salle. Bref, vous intégrez tout ça, Web3, métaverse, c'est encore au stade de réflexion, vous avez déjà avancé en développement avec vos équipes?
En fait, aujourd'hui, si on fait une conférence et qu'on ne parle pas de métaverse, on est déjà has-been. Okay. Donc, non, mais c'est vrai, c'est vraiment le mot. Si on ne l'emploie pas, j'ai l'impression qu'on a raté quelque chose.
Donc, buzzword.
Ouais, ouais. Quand on a fait notre lancement le 21 mars, François Bitouzet, notre président, a dit on sera prêt pour le métaverse. Aujourd'hui, c'est à l'état de réflexion. On ne sait pas exactement comment il faut faire. Oui, on se dit que peut-être qu'il faudrait, il faudrait envoyer des NFT à chaque participant, tout comme quand on collectionnait les badges. Quand on allait à un événement, bah, peut-être qu'il faudrait collectionner des NFT. On les accrochera plus à sa lampe, mais on les accrochera dans Sandbox ou n'importe où. Donc oui, on y pense. On est convaincu aussi que ça peut aider à faire des scénos assez incroyables, des choses assez rigolotes. Ce qu'on a vu pour l'instant, c'est rigolo, mais j'aurais pas envie d'y passer une heure, et je sais pas si ça donne pas un peu trop de place au contenant qu'au contenu.
Ouais, bonne réflexion, intéressant. Je partage. Ouais, je partage. Moi, je pense que les NFT, c'est en fait c'est le début d'une histoire, c'est pas la fin. En fait, c'est-à-dire ça donne accès à une suite. En fait, voilà.
Ouais.
Mais c'est un point de vue. C'est un point de vue. Tiens, question de Jean-Emmanuel, elle est intéressante hein, sur les événements hybrides en distanciel. Il demande, est-ce que le bilan CO2 est en votre faveur? Vous avez calculé, intégré ça? Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, le bilan CO2, aujourd'hui, pour être tout à fait honnête, on n'a pas calculé. Alors, peut-être que ça nous arrange de ne pas encore avoir calculé, parce qu'on est en diffusion ultra HD, donc forcément, il y a une grosse consommation de CO2. On se met sur le sujet à partir de maintenant, on regarde en ce qui concerne les normes. Bien sûr, c'est un sujet qui nous occupe et nous préoccupe. Déjà, à titre perso, et quand on rejoint une petite boîte, c'est d'abord les préoccupations personnelles de chacun qui font que l'enthousiasme de l'équipe va partir et va construire quelque chose d'éthique. Donc oui, on est tous concernés par ça. On n'a pas encore fait notre bilan carbone. Mais on pense que quoi qu'il en soit, réunir 5000 personnes dans une salle ou les réunir deux heures sur une plateforme, on a quand même déjà une petite conviction.
Une petite conviction, il faudra calculer tout ça, on n'a pas encore les indicateurs, mais ça viendra. Tiens, question de Vanessa, elle te dit, est-ce que vous avez gamifié l'expérience participant à distance? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour rendre ça extrêmement ludique, interactif, et faire en sorte que les gens soient présents, en fait, et ne s'endorment pas?
Qu'est-ce qu'on a fait? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est de se dire qu'on fait des animations. Toutes les trois semaines, on essaie de lancer une nouvelle interaction. Donc là, on vient de lancer, par exemple, ça paraît tout bête, mais un petit quiz avec des options où c'est deux images et tu choisis, toi, en cliquant. Le fait d'aller cliquer sur un écran fait que tu deviens vraiment acteur. Après, on n'a pas vraiment gamifié au sens où pourrait l'entendre Vanessa. Après, je pense que, encore une fois, la réussite dépend vraiment du contenu, de l'animateur. Et moi, ma conviction, et celle qu'on partage chez Voilà, c'est de se dire que un animateur, s'il n'est pas bon dans une salle, il sera pas meilleur en digital, voire pire. Donc on travaille aussi on regarde des formats de formation pour coacher en fait les animateurs.
Dernière question, parce que l'heure tourne et on passe un temps passionnant hein, sur ce sujet. Quels sont, selon toi, les nouveaux indicateurs à prendre en compte désormais dans quand on monte des événements hybrides ou en distanciel?
Il y en a un qu'il faut pas prendre, c'est celui du nombre de participants, parce qu'en fait, les gens sont toujours déçus. Ils attendent 1000 personnes, ils en ont 200. Donc, le format de l'invitation est super important. Et après, nous, on essaie de travailler le taux d'engagement, c'est-à-dire ce qu'on regarde, c'est à quel moment les gens ont posé des questions, à quel moment les gens envoient des emojis. Et d'ailleurs, on travaille beaucoup cette partie régie live chez Voilà. Donc, c'est plutôt le taux d'engagement et surtout pas le nombre de participants. Et c'est pas parce que la fenêtre est ouverte que les gens sont engagés. Donc, on est plutôt sur ce taux d'engagement par rapport au nombre de participants. Mais c'est très frustrant pour un organisateur d'événements d'attendre 1000 personnes et d'en avoir une petite centaine ou 200.
Le no-show dans l'événementiel.
C'est dramatique.
Qui fait gaspiller beaucoup d'argent sur certains événements présentiels aussi, hein, parce que y a du gâchis qui s'y fait. Laurence Mille, merci d'être passée ce matin dans ce podcast interactif, live et conversationnel. Merci à toi.
Merci à toi, PPC. C'était franchement super intéressant. Les conversations avec tout le monde, moi, je suis d'accord pour les poursuivre pour ceux qui veulent me pinguer sur LinkedIn. Merci à toutes ces questions, parce que ça montre aussi le chemin qu'il faut parcourir, sur lequel il faut continuer d'avancer. Donc merci PPC.
Merci beaucoup, merci à toi Laurence, merci aussi à vous tous qui avez été présents ce matin en direct. Merci à toi qui écoutes ce podcast jusqu'ici sur ta principale plateforme de balado-diffusion. Ah, merci, ça fait du bien au taux de complétion. Tu sais, donc ça veut dire qu'on va monter dans les algorithmes et puis encore. Bref, c'est formidable. Je te donne rendez-vous demain matin, vendredi. C'est le débrief de la rédac. Comme chaque vendredi, un des membres de la rédac room passe une tête, oui, avec vous tous et vous toutes qui avez noté des trucs pendant la semaine. Vous avez appris des choses, vous avez noté des choses, vous avez dit, tiens, ça m'a marqué. Vous venez en parler avec nous chaque vendredi. On débriefe de ce qu'on a appris cette semaine. Ça se passe, comme toujours, à 7h30 en direct sur LinkedIn. Je compte sur vous. On se retrouve demain matin. D'ici là, portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien. Ciao.